Eh bien oui, on est donc, on se dirige vers le Sénat, toujours pour les OGM, et aujourd'hui, il y a trois lettres funestes qui sont le CPE, et bien il y en a trois autres, c'est les OGM, et il y a beaucoup de CRS, là, qui nous font face, alors on va voir, là, on est avec José et quelques autres, mais bon, il faut pas se faire d'illusions, on va certainement pas passer et aller au contact, comme on dit, mais on se fera faire entendre, je crois, et c'est déjà une bonne chose, et on va voir comment vont se dérouler les débats, et au Sénat, et à l'Assemblée. Au revoir à tous, et à bientôt.
Monsieur Galopin de Villezot. Liberté, égalité, fraternité, dans la concurrence, libre et non faussée, bien entendu. Le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Auriez-vous oublié ceci? Vous confisquez le débat démocratique en passant au 49.3 toute réforme capitaliste et libérale qui organise la pauvreté, et non la précarité, culturelle, sociale et économique des Français. Le vote démocratique ne vaut pas chèque en blanc, comme le disait Pierre Bourdieu. Monsieur Galopin de Villezot, vous êtes le premier ministre d'un président qui a pris en 2002 pour un plébiscite personnel un vote qui avait pour but d'éloigner le spectre du fascisme de notre République démocratique. Aujourd'hui, les lycéens, les étudiants, les syndicats, les citoyens vous signifient, à vous et à tous les parangons de l'ultralibéralisme, du sécuritaire, de l'État autoritaire, de l'inégalité érigée en mode de civilisation, qu'ils entendent reprendre en main leur destin politique et social. Ce n'est pas la rue qui gouverne. À tout le moins, vous qui n'avez jamais rencontré les électeurs, c'est elle qui vous donne une légitimité. Aujourd'hui, elle vous signifie que vous n'avez plus cette légitimité. Retrait du CPE. Je vous le répète, le vote démocratique ne vaut pas chèque en blanc, monsieur de Villepin. Nicolas, étudiant, chômeur, pauvre, à Dunkerque, qui manifeste tous les jours. Merci.
Il y a entre 500 000 et 1 500 000 manifestants, mais il y en a 60 millions qui ne manifestent pas et qui sont contre la manifestation. Je regrette qu'il y ait 1 million d'un 500 000 imbéciles qui veulent la ruine de la France. Ah ben, ça fait rien, on sera comme le Bangladesh si on continue comme ça. Je rentre de la Brésil, c'est vraiment de l'Argentine, c'est vraiment une catastrophe de voir ce qui se passe là-bas. 30 ans de socialisme, les gens sont dans la misère. Voilà ce à quoi arrivera la France en 10 ans. Merci. Je me récompense à la radio.
Mardi 21 mars 2006, 8h, le journal de France Inter. Un syndicaliste dans le coma après avoir été piétiné par les CRS. Scandaleux? Non, pas du tout, puisque le gars était couché sur la pelouse et en état d'ivresse. Ah bon? On peut écraser les ivrognes qui ont le culot de subversifs d'attaquer la police en somnolant sur les pelouses? Ah bah attention, vous les handicapés qui traînez sur les trottoirs en fauteuil roulant, et vous les feignants qui faites la sieste sur le gazon, votre tour viendra bientôt. Mais c'est pas tout, voilà que le journaliste précise que le dossier médical du monsieur piétiné révèle qu'il a déjà eu des problèmes d'alcool. Comment ce journal a-t-il eu accès au dossier médical dont on ne cesse de nous répéter qu'il est confidentiel? Quels sont les salopards qui piétinent ainsi la loi, le droit, le respect de la vie privée? Sans doute ceux-là même qui s'apprêtent à faire une loi pour le dépistage précoce des troubles de conduite de l'enfant de 3 ans. Mardi 21 mars 2036, 8h, journal de France Inter, un homme de 30 ans, outrageusement syndicaliste, a été exécuté par piétinement policier. Son dossier médical révèle que déjà à l'âge de 3 ans, il avait, à la crèche, balancé un cube en plastique sur la tête d'une innocente petite fille. J'en paierai.
Monsieur de Villepin, je suis consternée. Je viens d'entendre sur France Inter ce que vous avez déclaré aujourd'hui, à savoir que votre électorat ne vous pardonnerait pas le retrait du CPE. Monsieur de Villepin, sachez que bien que faisant partie de votre électorat, je pense que vous êtes malgré tout ministre de tous les Français et pas juste de ceux qui vous ont élus. Ça me paraît la base d'une démocratie. Quand tout état de cause, une partie de votre électorat désavoue actuellement votre projet, ce qui peut arriver, et surtout vos méthodes, ce qui ne devrait jamais arriver. Merci donc de ne plus engager tout votre électorat dans votre déclaration, alors même que 2/3 des Français sont hostiles au CPE. Pour être plus précise, votre attitude suscite en moi, électrice de droite, la peur et la colère. La peur, celle physique qu'on peut avoir lorsque ceux à qui on a donné le pouvoir en abusent et continueront à en abuser parce que tout simplement l'autre n'existe pas pour eux. Quoi qu'ils fassent, et quelques messages qu'ils tentent de délivrer. Et la colère devant les conséquences de cette folie, et je ne suis pas la seule au sein de votre électorat, comme vous dites. À droite, on n'a pas forcément le réflexe de manifester et de se manifester, mais on n'en pense pas moins, soyez-en sûrs. Bien que vous ayez prouvé ces jours-ci que ce que pensent les Français vous est largement indifférent, j'ai considéré de mon devoir de vous donner mon opinion. Merci, monsieur le ministre. Je vous prie d'agréer l'expression de mes salutations distinguées.
J'ai plus de 50 ans de textile derrière moi et je voudrais simplement apporter un petit détail. Un jean acheté en Chine actuellement, pour eux qu'on en achète un container, ça coûte 3 dollars. 3 dollars rendus pour français, toutes les taxes, ça fait 3 euros. Dans les catalogues des grandes centrales, quand on en trouve un à 29,99 euros, c'est bien. 29,99, c'est toute taxe. Si on déduit la TVA, eh ben, ça va faire 24 euros. 24 euros divisé par 3 euros, ça fait 800% de marge. Alors, quelque part, il y a un os. Au départ, on sous-paye ces gens qui travaillent dans des conditions abominables. À la sortie, on fait payer très cher aux consommateurs. Mais entre les deux, il y en a qui s'en foutent plein les pognes et qui se foutent pas mal que les usines brûlent au Bangladesh.
Et les usines brûlent au Bangladesh si les jolis vêtements que vous allez acheter, que nous allons acheter pour ce printemps qui arrive, sentent un peu le roussi. Approchez votre nez du jean que vous allez acheter, de la petite chemise légère, du petit chemisier. Il se peut très bien que certains de ces vêtements sentent le roussi. Ici, en France, on pourra trouver ces vêtements aux États-Unis, enfin dans les pays riches. Il se peut que ces vêtements viennent de Chittagong, viennent du Bangladesh, viennent de l'usine KTS, où il y a eu cet incendie. C'était le 23 février, nous étions sur place avec Guy Van Til, et 2 heures après avoir rencontré le représentant des patrons de la confection du Bangladesh, qui nous avait rassuré sur les conditions de travail, qui nous a fait visiter une usine dans le quartier, une usine modèle, enfin modeste et modèle à la fois. Et bien 2 heures après, il y avait cet incendie avec 1200 ouvrières, jeunes ouvrières, prisonnières des flammes. Le bilan qui a été donné officiellement est d'une centaine de victimes. Aujourd'hui, ça n'a eu aucun écho, évidemment, dans la presse mondiale. Et nous étions là. C'est le sujet d'aujourd'hui, cet incendie et les conséquences, les suites de cet incendie pour les familles, pour les ouvrières elles-mêmes, les survivantes, et puis aussi quel sens on peut donner à ça et les réactions qu'on a pu rencontrer, voir. Enregistré aussi au Bangladesh, à Chittagong et à Dhaka. C'est juste après les messages que voici, que vous avez laissés sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bon, je viens de m'arrêter en bagnole, j'étais en train d'écouter la radio, et là je suis mort de rire, vraiment mort de rire. J'entends les déclarations de CRS qui me disent qu'ils ne frappent jamais les gens à terre. J'ai failli mourir de rire. Un petit rappel comme ça. J'ai perdu mon genou dans une certaine manifestation qu'on m'appelle Malville. Et à quelques mètres de moi, un certain Vital Michalon, un peu de souvenir, Vital Michalon qui a perdu la vie. Moi, j'ai perdu mon genou. Simplement, voilà, j'ai été frappé à terre par une douzaine de CRS qui m'ont piétiné copieusement avant de m'envoyer sans conscience à l'hosto. Deuxièmement, les hasards font que je travaille aujourd'hui dans un milieu de la formation. Je rencontre beaucoup d'employeurs qui sont corrects, très corrects, et qui me disent tous que, en catimini, bien sûr, que ce CPE, c'est quand même quelque chose qu'ils n'utiliseront pas et qui fait en tout cas plaisir essentiellement à la branche extrême et extrême droite des plus pourris des employeurs. Et troisièmement, moi, le vieux schnob de 51 ans, je dis aux jeunes, continuez. Nous, on est là, on n'est pas loin. Et surtout, cédez pas, parce que on n'oublie pas les acquis d'aujourd'hui, d'où ils viennent et comment ils ont été obtenus. Allez, salut, c'est Jean-Pierre de Poitiers. Ciao.
Voilà, il y a un petit patron qui a appelé aujourd'hui. Eh bien, je m'accorde avec lui complètement, car moi aussi, je suis un petit patron. J'ai un petit restaurant et j'ai deux ouvriers. Et c'est un petit restaurant d'une vingtaine de couverts. Et on est tous en très bonne harmonie, on s'entend très bien. Et je me sens bien plus proche des ouvriers dans les usines ou autre chose comme ça que d'un patron de multinationale ou des choses comme ça. Là, dernièrement, j'ai embauché une serveuse et je tenais à le dire que nous avons fait un CDI. Donc voilà, c'est un contrat à durée indéterminée et ça change tout pour elle, bien sûr, et pour nous, pas grand-chose, ou si peu. Seules les grosses entreprises profitent, bien sûr, du CPE. Et c'est un contrat qui ne sert à rien, qui n'apportera pas la croissance, mais au contraire, qui va diviser une fois de plus les gens, comme la politique de l'UMP actuelle. Divisons, et puis voilà. Donc tous contre le CPE. Voilà, c'était Hervé dans le Calvados.
Salut, c'est Daniel Mermet, la Bessie J'y suis avec Guy Ventil.
Flight number 2, arriving from New York.
On est tombé dans un rêve, la police est là, même les forces spéciales qui sont là. Voilà, là, il y a du pompier qui est en haut de son échelle en train d'arroser encore. Le sol est complètement trempé. Voilà, ça coche.
C'est assez extraordinaire ce qu'on voit parce qu'il y a un pompier avec un jet d'eau. Et pour tout sauvetage, il y a ce jet d'eau. On est à 5 mètres de l'incendie. On voit des étincelles qui sortent et le feu continue à l'intérieur du bâtiment.
The chief law enforcing agency in the city.
C'est le chef de la police de la ville.
The factory was set on fire at about 7:32, quarter to 8 o'clock.
L'incendie a commencé dans cet atelier de confection vers 7h30, 8h moins le quart aujourd'hui. Combien de victimes pour l'instant officiellement?
About 60 burning injuries, out of which 6 died.
Plus de 60 personnes qui ont été brûlées et blessées par le feu. Parmi ces 60 personnes, 6 sont mortes.
Combien de personnes étaient au travail quand l'incendie s'est déclaré?
But as I heard, 1200.
À peu près 1200 personnes étaient en train de travailler.
Regarde là, c'est en train de reprendre là, c'est en train de reprendre au-dessus de nous, tu vois. C'est terrible hein, de penser qu'il y a peut-être des gens à l'intérieur qui sont en train de brûler là-dedans. C'est dingue. C'est dingue parce que c'est cette pression imbécile de la consommation qui veut. Des prix, de la camelote, toujours de la camelote, toujours des prix plus bas. Et puis un pays hyper pauvre qui est bien obligé de s'écraser et de répondre à ses commandes à prix cassé, quoi. C'est pas n'importe quel incendie ce qu'on voit. Évidemment, ça se passe comme n'importe quel incendie. Sauf que ça, c'est un incendie pauvre. C'est l'incendie de l'exploitation. Voilà, c'était le 23 février dernier, il y a un mois à peu près, à Chittagong, donc, je le dis, quelques 2 heures après avoir rencontré le très rassurant patron des industries de la confection du Bangladesh, eh bien, ce feu se déclenchait dans un quartier d'ateliers, de petites usines, à la sortie de Chittagong, avec... On n'avait pas très bien compris ce qui se passait, évidemment, quand on est arrivé sur les lieux de l'incendie. Personne ne comprenait au juste ce qui se passait. En fait, il y avait, à cette heure-là, du soir, environ plus de 1000 ouvrières au quatrième étage de cet immeuble, de ce building, qui étaient au travail sur leur machine à coudre quand l'incendie s'est déclenché. Et ça a été une panique parce que les portes des ateliers... était fermé et les ouvrières ont dû sauter par les fenêtres, s'enfuir comme elles comme elles pouvaient. Un certain nombre sont restées prisonnières, ont été blessées, et on a avancé le chiffre d'une centaine de victimes. Tout ça, chiffre officiel, dans un pays où le sens de l'officiel est tout à fait suspect, bien évidemment. On sait que la corruption règne dans ce pays, corruption et collusion avec les patrons, et ces ateliers qui sous-traitent pour les grandes multinationales de l'habillement et les grandes marques de l'habillement que nous connaissons chez nous, en France, dans le monde entier, qui font fabriquer les vêtements que nous portons au Bangladesh, comme ailleurs dans le monde, dans un certain nombre de pays, de la Chine à l'île Maurice, en passant par le Guatemala, le Pakistan, etc. C'est les conditions de travail de ces femmes dont il est question aujourd'hui. Je voudrais bien faire comprendre que le but n'est pas de culpabiliser les consommateurs que nous sommes. Ça n'a aucun sens, ça n'aurait aucun intérêt, ni non plus de susciter je ne sais quelle pitié, je ne sais quelle charité et je ne sais quel geste humanitaire. Les limites de l'action dans ce sens-là aujourd'hui sont, on les connaît. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que les inégalités et l'impossibilité pour les populations de ces pays à se sortir de leurs conditions sont le fait bel et bien de cette globalisation, de cette dérégulation, des directives de l'OMC, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, qui visent, comme c'est le cas depuis le 1er janvier dernier, à par exemple abolir les quotas en matière de textile, en matière d'industrie du prêt-à-porter, qui font que ces pays manient le Bangladesh. D'autres pays à travers le monde se trouvent dans une situation extrêmement difficile pour cette branche-là. On évalue au Bangladesh à environ 1 million le nombre de chômeurs, de chômeuses suite à cette abolition des quotas sur 2 millions d'ouvrières du textile, 1 million dans l'année ou dans les 15 ou 20 mois à venir se retrouveront sans travail et sans défense aucune. C'est le sujet du jour dans la Basse J'y suis sur France Inter jusqu'à 18h.
L'incendie s'est produit dans la salle où on met le générateur et c'était exactement où il y a l'escalier.
En bas de l'escalier.
C'est pour ça qu'on n'a pas pour descendre. Les gens qui étaient là ne peuvent pas pour descendre.
Pourquoi il y avait quoi? Il y avait qu'un seul escalier dans l'immeuble.
Là-bas, ça se tend.
Il y a un seul escalier, une seule porte.
Et l'incendie a démarré en bas de l'escalier.
L'escalier, à côté de la salle de générateur, parce qu'il y avait aussi deux camions de vêtements qui étaient arrivés. Mais nous voulons entrer parce que nos proches sont là et ils sont en train de mourir.
Il a fallu des heures aux rares pompiers sous-équipés de Chittagong pour venir à bout de cet incendie. Et là, quelques heures après, on est à l'hôpital de Chittagong, au Medical College Hospital de Chittagong, avec la foule, une foule angoissée, dans le désarroi, tension, pression, évidemment, avec tous ces gens qui sont là, espérant avoir des nouvelles d'une sœur, d'une mère, d'une fille, et parfois aussi quand même d'un fils ou d'un garçon. Mais c'est vrai que c'est en majorité des femmes qui travaillent dans ces ateliers, qui travaillaient dans cet atelier, et on est là dans cette tension, puisque pour l'instant les nouvelles ne parviennent pas, les services de l'hôpital ne donnent pas encore de liste des précises des victimes, donc c'est dire l'angoisse de tous ceux qui sont là. Et c'est une occasion quand même pour trouver la force dans la rage, dans la colère, de témoigner sur les conditions de travail. Comment vous vous appelez ?
Shahinul.
Je m'appelle Shahinul.
Et vous êtes sans nouvelles de votre sœur ?
Je sais qu'elle est là, mais je ne suis pas autorisée à la voir.
Qu'est-ce que vous avez comme nouvelle ? Elle est très frappée, elle est très traumatisée.
Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore pu la voir.
Elle s'appelle comment ?
Je suis venu avant 6 heures du matin et jusqu'à maintenant, je n'ai pas pu entrer.
Shapna.
Elle s'appelle Shapna.
Dimash.
Ça fait 2 mois qu'elle travaille dans cette usine.
Et dans quelles conditions elle travaillait, votre sœur ? Qu'est-ce qu'elle vous en disait du travail ?
Non, elle n'était pas du tout contente dans son travail. Elle a travaillé comme une assistante et elle n'était pas du tout contente. Il n'y avait pas des horaires fixes de commencer et de terminer le travail.
Ça
commençait de 8h du matin jusqu'à 10h30 du soir. Et même le week-end, elle doit travailler. J'ai été malade une fois, on ne m'a pas accordé le congé. Vous n'aurez pas de congé, même si vous mourrez, même si vous êtes malade, vous n'aurez pas de congé, il faut continuer à travailler. C'est ce que disait le patron.
Vous travaillez aussi dans une usine ?
Oui, je travaille aussi dans la même usine, mais j'ai arrêté de travailler. J'ai eu peur parce qu'il y a eu un autre incendie dans la même industrie textile il y a 5 jours. Et à ce moment-là, je me suis sauvée et j'ai décidé d'arrêter le travail dans cette usine.
Dans la même usine qui vient de flamber, là ?
Oui, c'est à cause du générateur.
Un court-circuit ?
Oui, il y a eu des flammes. 3 personnes ont été blessées.
Et le lendemain, vous avez repris le travail ?
Ils sont guéris et sont retournés au travail, mais au bout de 5 jours, on a un deuxième incendie.
Oui, c'est terrible, hein. Ces gens qui attendent, qui tournent en rond. N'importe quel petit signe, n'importe quel petit mouvement, n'importe quel petit geste, ils l'interprètent aussitôt parce qu'ils sont en train d'attendre des nouvelles d'une sœur ou d'une fille, tout au plus, parce que c'est majoritairement des femmes qui ont été blessées et qui sont dans ces services là-bas. Derrière cette grille, ils attendent depuis toute la nuit pour certains. Et là, il y a eu un blessé qui est passé, aussitôt ils se sont précipités. Et c'est la tension maximum, ça va d'une grille à l'autre, d'un geste à l'autre, un effondrement, on attend... Mais ils savent absolument rien.
J'ai une nièce qui travaille et aussi j'ai mon petit frère qui travaille dans cette usine. Quand j'ai vu les flammes, on est tous allés pour les sauver. On a essayé d'entrer, mais là, on a découvert que la porte a été fermée à clé et on n'a pas trouvé le gardien. Et les gens à l'intérieur essayaient de sortir, mais ils n'ont pas réussi.
Et est-ce que vous savez ce qui est devenu le patron?
Oui, je ne connais pas le patron et le patron n'était pas là à ce moment-là. Un petit peu après que nous sommes arrivés, le pompier est arrivé aussi et les pompiers ont commencé leur travail. Mais entre-temps, nous avons pu sauver quand même quelques-uns.
Vous avez sauvé des gens.
Mais on a essayé de monter par les bambous, de l'échelle de bambous, et on a essayé d'entrer par la fenêtre, et comme ça, j'ai réussi à faire sortir
quelques-uns.
On les a tirés par les mains et après on les a mis dans les rickshaws pour emmener à l'hôpital.
Donc il n'y avait pas d'ambulance alors si vous les avez emmenés dans des rickshaws?
L'ambulance est arrivée beaucoup plus tard.
Il faut ce genre de tragédie pour que les ouvriers, les ouvrières surtout, osent parler, sortent de leur soumission et de leur peur, la terreur dans laquelle elles vivent quotidiennement pour moins d'un dollar par jour, pour oser parler, pour oser se plaindre, pour oser protester. Mais des incendies de ce genre, c'est très fréquent au Bangladesh, dans ces ateliers, de 4000 ateliers de confection au Bangladesh entre Chittagong et Dakar. Et on a parlé hier du drame du 11 avril 2005 où l'usine Spectrum située à Savar au nord-ouest de la capitale s'est effondrée sur les travailleurs faisant 80 victimes. Mais on a eu à Chaudhuri décembre 2000 un incendie qui a fait 53 morts, en août 2001 24 morts, en juin 2004 9 morts dans un incendie, en janvier 2005 23 morts dans un incendie. Je ne parle que des ateliers de confection. À la fois évidemment il y a une surexploitation de la part des patrons qui sont, je le répète, en connivence avec un État, des gouvernements corrompus, mais et qui sont sous la pression des grandes entreprises mondiales de vêtements ou de chaînes de magasins comme Walmart ou Carrefour. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette jeune fille?
Jumping from the third floor.
Elle a sauté du dernier étage.
On peut lui parler? Allô? Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Shopnartar.
Shopnartar. Quel âge tu as?
Oui, j'ai
19 ans.
Tu as 19 ans? Qu'est-ce qui t'est arrivé alors?
আগুন লাগার পরে আমরা যখন গেটে গেছি মেইন গেটে গেছি তখন আমরা বাইরেতে পাচ্ছি না.
Quand l'incendie s'était produit, nous étions en train de travailler au quatrième étage et quand on a vu le feu, on a essayé de sortir mais on a trouvé les portes fermées.
যখন বাইরে হতে পাচ্ছি না ওখানে ছেলেরা জানালাগুলো ভেঙে ছেত্র থেকে আমরা লাভ দিচ্ছি.
Et après, les gens qui sont entrés de l'extérieur, ils ont cassé les vitres et c'est comme ça que nous avons sauté par la fenêtre.
Le médecin a dit le quatrième étage.
Oui, le quatrième
étage.
Vous étiez nombreux à sortir par la fenêtre?
Je ne sais pas exactement, mais il y avait beaucoup de monde derrière moi quand j'ai sauté par la fenêtre.
Et comment tu es tombé alors?
তখন আমি দেখে যখন আমার পরে এখন আগুন আগুন জ্বলতেছে, এখন অনেক মানুষ চিল্লা চিল্লা করতেছে, ওরা বাড়িতে পারে নাই, তখন আমি গেড়েই গেছি.
J'ai sauté et après quelques instants, je me suis évanouie. J'ai perdu conscience, mais ce que je me rappelle, c'est les cris des gens autour de moi.
Est-ce que tu vas retourner travailler après ça?
Moi, je vais boycotter, qui corbe. J'ai rien à dire.
Je ne suis pas encore décidé, j'ai peur, mais je ne sais pas si je retournerai ou pas.
Nous sommes pauvres et nous devons travailler. Je vais réfléchir.
Partout dans les couloirs de cet hôpital, l'hôpital de Chittagong, le Medical College, des familles errent, cherchant avoir des nouvelles. Certaines personnes, certaines femmes, mamans probablement, se montrent des photos de leurs, des petites photos de leurs enfants pour essayer qu'on les identifie, parce que quoi d'autre pour identifier. Et cette jeune fille qu'on vient de voir, Choknartar, j'avoue, et avec Guy, on n'a pas osé lui demander l'état de ses jambes. Elle avait sauté du 4e étage, les jambes étaient sous une couverture, on n'a pas su du tout dans quel état précis elle était. Beaucoup de gens choqués, beaucoup de gens blessés, traumatisés, et une angoisse terrible dans cet hôpital. On attend une visite officielle du Premier ministre du Bangladesh, et on espère avoir des nouvelles.
Elle
y travaillait.
Elle,
il faut lui faire de la place parce qu'elle est petite, cette femme. Vous vous appelez comment?
Reshma.
Je m'appelle Reshma.
Reshma. Quel âge vous avez, Reshma?
J'ai 13 ans.
Vous avez 13 ans. Et vous travaillez dans l'entreprise?
Oui.
J'assiste
à couper les fils.
Vous étiez là pendant l'incendie, au moment de l'incendie?
Oui, j'y étais.
Il
y avait une panne d'électricité et donc on avait mis le générateur. Mais quand l'électricité est revenue, on n'a pas éteint le générateur. Et donc c'est par là que l'incendie s'était produit.
Qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu une explosion?
Oui, j'ai entendu le faux, et j'ai entendu au secours, et après j'ai vu beaucoup de personnes brûlées, et nous sommes tous sortis parce que nous avons eu peur.
Comment tu as fui, toi?
J'ai essayé de sortir. Comme je suis très petite, j'étais presque écrasée sous les pieds des autres. Mais quand même, on a tous couru vers la porte qui était fermée à clé. Donc, je n'ai pas pu sortir. Finalement, quelqu'un de l'extérieur de la porte m'a enlevé au-dessous de la porte.
Et après?
J'ai commencé à pleurer pour ma sœur qui était au dedans, et après je suis retournée chez moi pour informer ma famille ce qui s'était passé.
Ta sœur était dedans?
Il n'a pas pu sortir, il est resté parce qu'il a essayé de descendre pour sortir, mais comme le feu a été en bas, près d'escalier, il n'a pas pu sortir.
Donc, mais tu sais où elle est? Tu as des nouvelles d'elle?
Tout le monde m'a dit qu'elle est ici, elle a été emmenée ici, c'est pour ça que je suis venue, mais jusqu'à maintenant je ne l'ai pas vue.
Et tu as quel âge?
J'ai 13 ans.
Et ta sœur, elle a quel âge?
11 ans. Elle a 11 ans, ma sœur.
Ta sœur, elle a 11 ans. Elle travaille et elle a 11 ans?
Oui, et elle travaille aussi.
À combien tu gagnes par mois?
Je gagne 1000 taka par mois.
C'est ton premier travail?
Oui.
Voilà, la visite officielle est en train d'avoir lieu. C'est un ministre local qui est en train de s'arrêter devant les femmes qui sont allongées sur leur lit. Ils s'inclinent et leur demandent de leurs nouvelles, et il y en a... Oh là 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 là.
Alors là, notre interprète ne nous a pas suivis parce que il y a une salle de 40-50 lits avec des gens, des femmes dans un état absolument terrible. Là, il y a par exemple Sophia, 15 ans.
Pourcentage de brûlure, 16%.
16% de brûlure. Il y a celle-ci, 19 ans, 25% de brûlure, elle est absolument défigurée, c'est atroce. Là, il y a celle-ci qui a l'air plutôt morte que vive, qui a 18 ans. qui, si elle n'est pas morte, en a plus pour longtemps. Là, c'est plutôt des morts qu'on est en train de voir que des brûlés. C'est assez terrifiant. Elle a 15 ans. Elle est brûlée à 16%, cette jeune fille. Celle-ci, elle est brûlée à 10%. On ne voit pas très bien, mais les visages absolument défigurés, défigurés à jamais. Celle-ci qui est complètement, qui a l'air plutôt plus morte que vive, même si elle semble respirer encore un peu, elle est brûlée à 25%. Elle s'appelle Margina, elle a 19 ans. Celle-ci a 18 ans, elle est brûlée à 15%. Celle-ci, Levly, elle est brûlée à 30%. On est en train de lui faire des soins, mais ça a l'air bien désespéré. Celle-ci, elle est brûlée à 10%, elle a 18 ans. Celle-ci, c'est terrifiant. Celle-ci est en train de finir sa vie. Très probablement, c'est absolument terrifiant. Elle a le visage complètement boursouflé, gonflé. Et elle est brûlée à 30%, elle a 20 ans.
Vous avez vu les soins, quoi. Ils ont juste une perfusion de sérum fille et un peu de biafine sur les plaies, c'est tout, quoi.
Celle-ci a 17 ans, elle est brûlée à 21%. Dis pas. Cette jeune fille-là, son nom n'est pas encore indiqué. Elle bouge encore.
T'as vu l'âge de cette demoiselle-là qui est brûlée à 8%? 12 ans.
12 ans. Je crois que c'est la pire de toutes, celle-là. Hein,
elle a les mains complètement bandées.
Ouais.
Et la respiration octante.
Croire que les Bangladais eux-mêmes sont complètement inertes face à tout cela. Il y a des résistances, il y a des oppositions, il y a des gens qui se battent, il y a des lutteurs sociaux, il y a des intellos, des syndicalistes qui essayent évidemment de se battre contre tout ça. C'est difficile, c'est héroïque, c'est aussi une nécessité de survie pour tous, pour ce peuple de 150 millions d'habitants. N'oublions pas le Bangladesh, 150 millions d'habitants sur une surface qui équivaut à au tiers de la France, avec régulièrement ces problèmes de cyclones, de raz-de-marée, etc. C'est un pays qui souffre beaucoup, mais avec une énergie formidable, mais incroyable, dans un pays à ce point peuplé. Alors, parmi ceux qui résistent, eh ben en voilà un. Il s'appelle Khorshed Alam. Il dirige une ONG, un mouvement qui s'appelle Mouvement Alternatif pour les ressources et les libertés. Et voilà l'analyse qu'il a et qu'il fait de des scènes que nous venons de voir et des conditions générales et des travailleurs et de l'économie dans son pays.
My name is Khorshed Alam. I belong to an organization called Alternative Movement for Resources and Freedom.
Je m'appelle Khorshed Alam et je travaille pour une organisation qui s'appelle Mouvement Alternatif pour les ressources et la liberté.
Ce qui nous intéresse dans cette histoire d'atelier de confection qui a brûlé, c'est les responsabilités là-dedans. D'abord, est-ce que l'incendie de cet atelier vous a étonné?
No, I'm not surprised because We have been telling it to the companies, to our government, especially the factory inspector, who is responsible to monitor whether this building is really fit to establish the factory.
Non, on n'est pas du tout étonné parce que ça fait longtemps et des années qu'on le dit au gouvernement, qu'on le dit aux autorités, puis particulièrement aux inspections du travail qui sont chargées de voir si les bâtiments dans lesquels se trouvent ces usines et ces ateliers sont faits et adéquats pour pouvoir mener telles activités.
Then we also make responsible to the factory owners who owns the factory. Who are running the business,
et on pointe aussi du doigt la responsabilité des propriétaires de ces usines qui font marcher ces boîtes.
We also make responsible to the companies who are sourcing from those factories. Western companies means the brands like Carrefour, Carstart Coelé, Cotton Group, Inditex, Zara.
This. Et puis aussi on pointe du doigt la responsabilité des compagnies étrangères, principalement occidentales, qui commandent à ces entreprises comme Carrefour, l'allemand Quelle, Inditex qui est en fait Zara,
Cotton Group. Who are the major sources or the any other like even the Gap or the
et ou alors toutes les grandes marques qui passent des ordres aussi, Gap, Walmart, tout, en fait qui que ce soit qui commande ici, qui fait travailler l'industrie textile.
That is what we are talking about, the corporate responsibility.
C'est pour ça qu'on parle de la responsabilité de ces multinationales.
That is why we are talking about that the companies, let's say Carrefour, they must take the responsibility what is happening in their factory where they are sourcing from.
Parce so they cannot avoid. C'est ce que par exemple Carrefour, quand il sous-traite du travail dans une de ses usines, il ne peut pas échapper à sa responsabilité. C'est ça ce qu'on appelle la responsabilité.
They have the, I mean the all three parties, the brands, the Western companies who are sourcing in Bangladesh.
C'est un billet à trois bandes. C'est à trois.
The Bangladesh government.
Il y a les compagnies étrangères, occidentales.
And
il y a le gouvernement bangladais.
And the factory owners.
They les jointly, propriétaires de ces ateliers.
They jointly must take the responsibility.
C'est tous les trois et ensemble qui doivent prendre leurs responsabilités.
Des responsabilités, ils les prendront quand la loi les y astreindra, quand vous aurez vraiment des lois et qu'elles soient appliquées.
No, for Bangladeshi owners, we have a law.
On a une loi déjà pour la pour les propriétaires bangladais.
Every owner who runs the factory, he or she must follow this law.
Doit s'appliquer ces lois.
And most of the factories are owned by the government people, the ministers, the parliament members. So that is why it's not implemented.
Or, il se trouve que la plupart de ces usines sont dirigées par des membres du gouvernement ou par des ministres, par des politiques, donc ils ne voient aucun intérêt à appliquer la loi.
Of course, I think at one point, perhaps we have to go for demanding the international laws under which you can make the companies responsible.
C'est pour ça qu'on a aussi besoin de lois internationales par lesquelles on puisse engager la responsabilité des multinationales.
Mais ces lois existent à travers l'Organisation internationale du travail, par exemple.
But the problem is that no one is following, not our government, not our companies, not the Western companies.
Mais le problème, c'est que personne suit ces codes de conduite. Pas notre gouvernement, pas notre compagnie, mais pas non plus les compagnies occidentales.
But the ILO doesn't have this kind of mandate to punish the companies or the Bangladesh government. It's a kind of that they have a convention, they have a guidelines and states and the companies are to follow it, but no one follows it.
Simplement, les États et les compagnies ne suivent absolument pas ces réglementations, mais simplement l'organisation internationale n'a pas de moyens de coercition, n'a pas le moyen de punir, et donc personne ne respecte ces conventions.
C'est ça. En fait, les conventions existent, mais c'est l'application de ces conventions qui manque, et l'application de ces conventions, elles ne peuvent se faire que par le truchement des gouvernements, que par une volonté des gouvernements, c'est-à-dire par une volonté politique. On peut pas espérer que votre gouvernement va lutter contre lui-même.
Yeah, that is why things are not changing.
C'est pour ça que rien ne change, oui.
And that is why the civil society groups, trade unions, the public groups,
les syndicats,
consumers group,
les groupes de consommateurs aussi.
And I also think that the Western consumers have a very big role to play.
Les consommateurs occidentaux ont un très grand rôle à jouer dans ce domaine.
Si c'est un rôle politique.
Yeah, I think it's more of a political
role. Je pense que c'est plus politique.
Yeah. Boycotting Bangladeshi products will not solve the problem.
Boycotter les produits faits au Bangladesh ne résoudra absolument pas le problème. Il faut que ce soit une question politique.
Il faut que ce soit très clair là-dessus. C'est une question politique.
Yeah. It's a matter of politics because the whole globalization issue is always favoring the companies. It's
not favoring. La globalisation est toujours en faveur des compagnies, en faveur des multinationales.
It's not favoring the poor people in the France. It's not favoring the poor people in Bangladesh.
Elle ne vient pas aider et favoriser les pauvres en France, pas plus qu'au Bangladesh.
They are just taking advantage of the poverty situation of Bangladesh.
Ils profitent de la pauvreté qu'il y a au Bangladesh pour faire des affaires.
Yeah, to make business because that their aggressive profit-oriented business mentality.
Parce qu'ils ont une mentalité agressive orientée vers le seul profit.
This mentality actually make the workers' condition worse here.
Et c'est ça qui rend, c'est cette mentalité axée sur le seul profit qui fait empirer la situation des travailleurs ici au Bangladesh.
Et c'est ça qui tue les ouvrières dans les fabriques de Chittagong.
In Chittagong, KTS textile also the Spectrum. That's the only
oui,
thing.
Oui, dans l'usine KTS textile de Chittagong, et puis aussi comme c'était le cas il y a un an dans Spectrum ici, c'est cette même volonté de profit.
Autrefois, on disait faire suer le burno. Ici au Bangladesh, on fait suer le sari. Le lendemain de cet incendie, après avoir rencontré les survivants dans cet hôpital de Chittagong, on se retrouve à Dhaka, la capitale du Bangladesh, où là, il y a une manifestation. Et une manifestation de femmes avec ces somptueux saris. Mais les regards, les visages ne sont pas aussi somptueux. C'est des visages en colère, en rage, en furie, avec des banderoles où ces femmes essayent d'exprimer toute leur colère et leurs revendications. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est une manif assez réduite qui essaye de se faire une place dans la circulation démente de cette ville démente de Dhaka. Et parmi les femmes qui sont là, l'une des porte-paroles d'un syndicat qui s'appelle BIGUF, la Fédération Syndicale Indépendante des Travailleurs, Travailleuses de la Confection du Bangladesh. Elle s'appelle Nazma Akhtar.
My name is Nazma Akhtar. I am the General Secretary of Awas Foundation.
Je suis Nazma Akhtar, je suis secrétaire général de la Awas Foundation.
Alors là, on vous voit manifester. Pourquoi vous manifestez aujourd'hui?
You know, in Bangladesh, more than 4,000 factories in our country.
Vous savez, il y a plus de 4,000 usines de confection dans notre pays.
And 85% are women.
Et 85% des travailleuses sont des femmes.
But every year, every moment, we don't have any safety in the garments industry.
Mais il n'y a jamais, jamais, à aucun moment, il y a des garanties de sécurité dans cette industrie.
Because there sometimes there fire, they had an accident, in fire accident, sometimes the factory collapse. So these things are continuing.
Il y a des feux, des incidents, là comme aujourd'hui, une usine qui s'effondre, ça arrive sans cesse.
Parce que voilà, le temps qu'on vient de Chittagong, où il y a eu cet incendie terrible, avec des dizaines et des dizaines de victimes, des femmes pour l'essentiel, des très jeunes femmes pour l'essentiel, le temps qu'on arrive ici à Dhaka, il y a un atelier qui s'est effondré. Alors que l'année dernière, en 2005, au mois d'avril, il y a eu ici même, avec l'affaire Spectrum, un immeuble qui s'est effondré.
So every moment, everywhere, the garments worker, they couldn't get any protection. They doesn't have any self-security. Even their wages is very low. They are working.
Les salaires sont très bas. Les conditions de travail sont très mauvaises aussi. Et à tout moment, il y a des accidents qui arrivent dans l'industrie de la confection.
Although it's a global market and economic and the MFF is out, but you know, in Bangladesh, we were thinking and we thought the factory will be shut down. But our factory is not shut down. But we have lots of order. But the price is very low from the brands. That is why.
Ouais, et donc même si ces conditions de travail sont terribles, il n'y a aucune garantie de l'emploi. Et pourtant, même s'il y a eu la fin de l'accord multifibre avec les quotas pour l'exportation depuis le Bangladesh, les commandes n'ont pas cessé, mais simplement c'est les salaires qui ont baissé.
You know, our minimum wage is 930 taka. It was like since 1994 that gazette was passed in Bangladesh, but almost more than 12 years there is no change.
Et même s'il y a un salaire minimum qui est garanti au Bangladesh qui est de 930 taka, ce salaire minimum a été établi en 1994 et depuis 12 ans, il a toujours pas été augmenté.
Parlez-nous de la responsabilité des acheteurs étrangers, des acheteurs occidentaux dans cette affaire.
All of the European or American who are working, in general, their factory scenario or picture, you can find all that equal, like wages, like working hour, like their behavior, all are same. I cannot claim.
Je ne peux pas en blâmer une plus qu'une autre, je ne peux pas en distinguer une des autres. Toutes les multinationales qui sont présentes ici, qui travaillent sur le même modèle pour les heures de travail, pour les salaires, etc.
Because we know in France, you have the factory brand in Bangladesh. We know in Germany, many ways.
On sait que vous, en France, vous avez des marques qui produisent au Bangladesh, mais aussi en Allemagne et partout.
But all are equal. This is our opinion.
Et nous, on pense qu'elles sont toutes pareilles.
Alors ça, c'est une responsabilité. Quelles sont les autres responsabilités?
Also, our government is negligible for this.
Bien sûr, aussi, c'est notre gouvernement qui est très négligent dans cette affaire.
Because you know, even we have problem with the compensation law because law was the law was passed like since 1923, almost 100 years.
Par exemple, les lois pour les indemnités, cette loi-là a été votée en 1923. Elle a presque 100 ans. Elle n'a jamais été remise à jour.
Very small amount of money the family will get, but it's not sufficient. You
les familles ne se voient verser que des toutes petites sommes d'argent, ce qui sont absolument insuffisantes.
In country, even governments own our government, they are earning lots of money from those workers, even multinational companies.
Alors que les multinationales, notre gouvernement et les patrons ici gagnent beaucoup d'argent sur le dos de ces ouvrières.
You know, in Bangladesh, when the garments workers are killed or die or a difficult accident, we getting 100,000 taka for the compensation.
Vous savez, au Bangladesh, quand un ouvrier meurt sur son lieu de travail dans une industrie de la confection, on ne touche que 100 000 taka d'indemnité, c'est-à-dire 1 300 euros.
That is not a human price.
C'est pas un prix pour une vie humaine.
Voilà. C'est que vous, un être humain, une femme comme vous, ici, c'est 1 300 euros.
Trade should be not only profitable, it should be also looking for the human. Otherwise, this situation will be happen everywhere.
Le marché, c'est pas simplement faire du profit, c'est aussi penser à l'aspect humain des choses. Sinon, cette situation va se reproduire partout ailleurs.
Because you know, like myself, I was working in the factory when I was 11 years old.
Parce que moi, par exemple, j'ai commencé à travailler dans une usine de confection à l'âge de 11 ans.
But only I faced the problem in the garment sector. I suffered many problems.
Even shafted.
We lost our job.
That is why we are. Et c'est pour ça maintenant.
Working last 15 years for the workers.
Et c'est pour ça que ça fait depuis 15 ans qu'on travaille pour les ouvriers, pour les travailleurs.
Even in Bangladesh, we have problem with the many men leadership. There is very small percentage of women because they are deprived. Also, women should not raise.
That et mais ici au Bangladesh aussi, on a beaucoup de problèmes parce que c'est une société qui est tenue par les hommes et il y a très peu de place qui est laissée nous pour les femmes pour pouvoir nous battre et nous tenir.
J'arrive pas à vous croire quand vous me dites que vous avez commencé à travailler à 11 ans.
Yes. I went to very small class of school, but after that I am learning labor law, English, all these things.
It's
very hard life for us.
J'ai fait l'école primaire, tout simplement, c'est tout. Et après, j'ai commencé à étudier le droit du travail et toutes ces choses-là. Et ça, c'était très difficile.
Et vous avez travaillé combien d'années en atelier?
In the factory,
yes.
I was 7 years.
Pendant 7 ans.
Pendant 7 ans.
Yeah, and now I'm working for workers' rights 14 years.
Maintenant, ça fait 14 ans que je travaille pour la défense des droits des ouvrières.
I'm 32 years old.
J'ai 32 ans.
Voilà, merci à tous. Elle s'appelle Nazma Akhter, n'oubliez pas ce nom. Merci aussi à Shamima Nazrin, Korshed Alam. Merci à Miroul Ake Amin. Merci aussi à Cédric Gouverneur, c'était un reportage avec Guy Vanctil. Merci à Mamoun Abdullah du journal Protomalo. Merci à Rupam Singh et Sten de Berigo, à Jean-Paul Arpi, Uday Shankar et à notre traductrice bien-aimée Zahin Chouduri de Chittagong à voir ce soir le documentaire de Gilles Balbastre, EDF, les apprentis sorciers projetés dans le cadre du festival Critique sociale du capitalisme à 19h à la salle Alain Colas à Lille 53 rue Marbrerie. Vous pouvez voir des photos de ce reportage que vous venez d'entendre au Bangladesh sur la-ba.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission là-bas. Je suis technique aujourd'hui, Sandrine Laurent et Philippe Duclos. C'est Antoine Chao et Yann Chouquet qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, montée par Koy Nguyen et Guy Vanctil, assisté de Pascal Le, Pascal Yello et Christophe Imbert pour le répondeur dont le numéro est le 01 56 40 37 37.